jusqu'à 13h les rendez-vous de midi. Le retour d'Emmanuel, votre invité aujourd'hui dans nos studios, Marie-France Berthaud.
Et nos papilles vont pétiller aujourd'hui, c'est sûr, dans cette émission. Après des petits traités sur le haricot, sur le pâté, Marie-France Berthaud nous présente son petit traité de la soupe. Toujours aux éditions Le Sureau. Ce sont des petits livres avec un très beau papier de la couleur. On rentre de nouveau avec vous, Marie-France, dans une histoire culinaire sans frontières, avec ses recettes plus appétissantes les unes que les autres. Bonjour, bienvenue Marie-France Berthaud.
Bonjour Emmanuel, merci de me recevoir.
Avec un grand plaisir. Voilà, on retrouve notre Marie-France, non pas romancière aujourd'hui, mais passionnée de cuisine. Et c'est vraiment un merveilleux traité dans la saisonnalité presque parfaite de la sortie, j'ai envie de dire.
Ah oui, le cuisine est bon là, il sort au bon moment.
Il sort le 14 novembre.
Oui, le 14 novembre dans toutes les librairies, effectivement.
Et vous préparez pour le 21 novembre, on peut le dire de suite, une soirée soupe chez nos amis de 20 degrés nord, 20 degrés sud, chez vos amis, votre
oui.
ami.
Ben, on avait déjà fait une soirée comme ça littéraire pour la sortie de mon roman, Irish Coffee.
Oui, Irish Coffee.
Voilà, et ce qui avait été génial, et du coup on s'est dit, avec Mélanie, ben, on remet ça, et là on fait de la soupe.
Avec Mélanie Polo qui est aujourd'hui au Salon du Chocolat. Oui. On le rend le matin. On a envoyé Carina Duchesne à Paris au Salon du Chocolat.
Oh, ça doit être génial à voir.
J'ai vu les mains. Et ça y est, là, on a pu voir la robe en chocolat merveilleuse. Et vous aurez aussi Clémentine, évidemment, de la librairie au Chaland qui vous accompagne aussi dans
oui,
beaucoup de projets. Donc on en reparlera. C'est le 21 novembre pour cette soirée soupe. Marie-France, vous poursuivez le format du traité qui répond, je pense, à vos différentes ambitions. Ce n'est pas qu'un livre de recettes. Votre passion, elle se nourrit aussi d'histoire. Et de géographie un petit peu aussi.
Oui, oui, on voyage.
C'est un sujet qui est presque intemporel, quoique on peut parler aujourd'hui d'un retour aux sources et aux soupes dans notre société.
Oui, absolument. C'est vrai qu'on a tous en souvenir les soupes de nos mamans, qui étaient des soupes de légumes ou des bouillons de pot-au-feu, les soupes avec les restes de la veille. Et finalement, la soupe est devenue vraiment un effet de mode avec l'ouverture des bars à soupe dans les grandes villes. Et maintenant, je pense qu'il y a aussi le phénomène que les gens veulent manger de plus en plus de légumes. Il y a un retour aussi à une nourriture saine. Et finalement, on réinvente la soupe. Donc, cette soupe qui était finalement un petit peu la soupe du pauvre, avec ce qu'on avait sous la main, les légumes traditionnels, j'appelle la Sainte Trinité, pommes de terre, poireaux, choux, en Vendée. Et puis maintenant, ben, on réinvente la soupe avec des tas de légumes, on y fait entrer des tas de produits savoureux, en fait.
Avec aussi de la viande, avec des crustacés,
bien
des
sûr.
Poissons.
Oui.
On va voir ça. Et donc, le format du petit traité, c'est quelque chose que vous avez
affectionné. Oui, j'adore, oui. Parce que c'est vrai que j'ai commencé en faisant des livres traditionnels, hein, une recette, une photo. Et puis, quand j'ai connu cette maison d'édition, qui avait déjà une collection assez importante de petits traités culinaires, hein, bon, j'ai été amenée à rencontrer cette société par le biais d'un ami qui collaborait déjà avec eux. Et j'ai adoré le concept, en fait, parce que ça lie à la fois effectivement l'écriture, la recherche, parce qu'il y a un énorme travail de recherche, hein. Je me facilite pas la tâche avec ces petits traités mais il y a un gros travail de recherche et d'écriture, donc de mise en page de l'écriture, et puis il y a toutes les recettes en elles-mêmes qui ne sont pas que des recettes régionales. Je sors vraiment de la Vendée,
oui, vous
pour aller à travers le monde,
partout.
Voilà, découvrir la soupe
en Europe, beaucoup en Asie, entre autres.
Et la soupe coréenne, je pense, des jeunes mamans qu'une amie m'avait conseillé. Elle avait vu ça dans une série télé.
Ah ben, on en voit plein. Comment vous avez trouvé, par exemple, le potage de laitue à l'ail des ours et crumble de petit gris, le zappa della valpelline, la soupe montagnarde au pain et au fromage, bon, la soupe pho beau du Vietnam, évidemment, la mycorhizienne au petit salé, bon, entre autres. Où est-ce que vous avez cherché toutes ces recettes?
Alors, j'ai fait beaucoup de... Bon, un très gros travail de recherche, en fait. Donc, ça a été un travail de recherche par mots-clés, par pays. Parfois, je trouvais une recette qui m'amenait vers d'autres, en poussant plus loin le travail. Et petit à petit, j'ai collecté des informations, j'ai pris des notes. Par rapport aux légumes, aux produits en eux-mêmes, bon, j'ai beaucoup d'ouvrages culinaires. Et j'ai consulté d'autres ouvrages. Et j'ai essayé d'imaginer, de me dire, bon voilà, on va sortir donc justement des légumes traditionnels. Quels légumes, pour parler des légumes, hein, parce que bon, il y a oui. Les poissons et la viande, comme vous disiez, mais en partant des légumes en eux-mêmes, je me suis dit, bon voilà, quels légumes, autres que ceux que l'on a l'habitude de cuisiner, je pourrais amener et vers quoi je pourrais m'orienter. Donc tous ces petits mots-clés, petit à petit, ça a été un travail de fourmi pour petit à petit essayer de les lier ensemble, de se dire, bon voilà, par exemple les légumes racines, avec de quelle manière je pourrais les cuisiner, tous ces légumes anciens. Il y a la chicorée dont je parle, la chicorée tête d'anguille, qu'on a beaucoup de mal à trouver, c'est vrai, actuellement, mais qui était cultivée dans le Nord pendant la guerre et qui servait notamment pour faire la chicorée, pour remplacer le café. Et c'est vrai que ce sont des légumes qui reviennent un petit peu, qu'on commence à trouver dans certains circuits. Donc ça, c'est un travail passionnant, en fait, de recherche.
Hein. Et vous les avez toutes testées, finalement, ces recettes?
Quasiment toutes.
Quasiment toutes.
Quasiment toutes. Il y a certaines recettes traditionnelles qui m'ont été confiées et que je n'ai pas forcément réalisées, mais on va dire que quasiment toutes. Hein.
Parce qu'il faut aussi effectivement trouver tous les ingrédients.
Oui.
Bon, globalement, on va les trouver, mais il faut quand même aller au marché.
Enfin, oui, je pense, absolument.
Le marché va nous aider.
Oui, tout à fait. Oui. Puis parfois, j'ai expérimenté sans avoir d'idée. J'ai fait des essais comme ça, un petit peu à l'improviste. Je me souviens d'une soupe que j'ai faite avec du mimosa un jour. J'avais envie d'une soupe colorée, c'était au printemps. J'ai dit, tiens, je vais faire un essai, voilà.
C'était une réussite.
Oui, c'était très très bon. Je l'ai mise d'ailleurs dedans, ouais.
Donc on va retrouver le mimosa. Alors, quand on parle de soupe, en fait, déjà la base, hein, on est dans un éventail de propositions qui est très large.
Oui, tout à fait, parce que la soupe, à l'origine, surmonte très loin dans le temps, au Moyen-Âge. C'était de l'eau, c'était un bouillon dans lequel on mettait du pain. C'est ça, l'origine du mot soupe, c'est du bouillon avec du pain. Après, le potage, c'était vraiment c'était les légumes que l'on mettait dans un pot, le potage.
D'accord.
Maintenant, soupe, c'est devenu un terme générique qui englobe tout ce qui est bouillon, tout ce qui est potage, velouté, parce que on va parler de consommé, de velouté. Dans les restaurants, ils vont souvent mettre velouté parce qu'il y a un ajout de crème ou de jaune d'œuf pour donner justement cet aspect un peu crémeux. Donc on parle, la soupe est devenue vraiment ce terme générique.
Et un super sujet pour un petit traité. Alors vous l'avez évoqué, j'aime assez aussi votre introduction, hein. Vous parlez du cérémonial avec tous les accessoires, avec ce geste beau, généreux, quand on sert la soupe.
Oui, parce que c'est vrai qu'autrefois, on voit encore, il y a des musées de porcelaine ou des musées de faïencerie, où on voit ces grandes soupières, les soupières de nos grands-mères. Qu'on retrouve dans les vides-greniers. Et ces soupières qui étaient superbes, où il y avait la soupe au milieu, avec la louche, et puis on sert tout le monde dans les assiettes creuses. Oui, c'est vrai. Je trouve que la vaisselle liée à la soupe, je trouve que c'est sympa de la ressortir. Ça peut être aussi des petits pots de terre. Ce soir, je suis invitée, je vais confectionner une soupe et je vais les mettre dans des petits pots de terre.
Oui. Il y a plein d'idées comme ça. Vous démarrez aussi le traité avec la base. C'est le bouillon, vous l'avez évoqué.
Oui.
Vous dites même et vous écrivez la base magique, Marie-France.
Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, nos mamans ont eu l'impression ont connu les bouillons cubes, les magies, qui ont un petit peu révolutionné la cuisine. Donc c'était d'un seul coup, les bouillons cubes sont arrivés, ça a révolutionné finalement la cuisine, c'était un gain de temps. D'un seul coup, on avait une soupe très rapidement, en faisant fondre ces cubes. On avait une soupe rapide, aromatisée avec des produits de synthèse, mais on avait une soupe magique, un bouillon, on y mettait du vermicelle. Et puis finalement, maintenant, on revient un petit peu en arrière, on s'aperçoit que ces bouillons, c'est des bouillons de synthèse, et que ça n'est pas sain, c'est trop salé. Et finalement faire son bouillon, mais c'est excessivement simple, et ça permet justement de recycler, entre guillemets, des restes, des carcasses de poulet quand on a cuit un poulet, des carcasses de volaille, des carcasses de poisson, des restes de langoustine. Toutes les carapaces de langoustine vont faire des fumées. Donc un bouillon, c'est simple à faire, on peut le congeler et c'est une base d'une soupe.
Et c'est
bonne
très,
soupe.
C'est très bon pour la santé. Nous dit-on depuis meilleur. Des siècles.
Absolument.
Je l'apprends aussi avec
oui,
vous.
Oui,
ça.
Oui, tout à fait. Et puis, en termes aromatiques, on a une puissance aromatique. C'est ce qui va donner tout le corps, justement, à nos soupes.
Donc, vous nous racontez, effectivement, au fil des décennies, comment elles ont été conseillées, au fil des siècles aussi, conseillées pour améliorer notre santé. Vous partez aussi dans plein de pays, aux Pays-Bas, en Angleterre, en France, à Paris. Évidemment, le bouillon, dès la fin du 19e, début 20e, s'invite dans des restaurants populaires branchés, et encore aujourd'hui.
Oui, les fameux bouillons, notamment les bouillons Chartier à Paris, où je suis allée, qui sont des grandes brasseries parisiennes. Vraiment,
Ça existe toujours, bien sûr.
Ça existe toujours, et ils s'ancrent dans d'autres villes. Ce sont vraiment des restaurants populaires, où on mange pour 3 francs 6 sous, des plats hyper traditionnels. Bon, bah, bien sûr, il y a le bouillon, la soupe.
Oui.
Mais les bouillons, oui, c'est vraiment c'est emblématique, je trouve, de la restauration française.
Alors, sans tout dévoiler de ce merveilleux petit traité de la soupe, on va proposer de nouveaux exemples, quelques recettes dans quelques minutes avec vous. Et puis, on le rappelle, la sortie du livre le 14 novembre, grande soirée de soupe. Ce sera donc à 20 degrés nord, 20 degrés sud, le 21 novembre.
Et on y retourne juste après Jean-Louis Aubert sur Neuve et Merveille. Aubert sur Neuve. Jusqu'à 13h, le retour des rendez-vous de midi. Aujourd'hui, votre invité Emmanuel, Marie-France Berthaud.
Marie-France qui nous régale, et je ne suis pas la seule à le dire, sur votre page Facebook, j'ai découvert ce matin une recette issue de votre petit traité de la soupe proposée, testée, filmée par Jean-Sébastien Petit-Demanche, qui est quand même journaliste gastronomique RTL. Je crois que c'était une belle surprise pour vous.
Ah oui, c'était la belle surprise du jour quand je l'ai découverte et j'étais vraiment ravie. Il a fait toute une vidéo pour puis alors il sait bien en parler en
plus. Oui.
Ah
oui,
pour parler de l'oxtail soup, une soupe anglaise à la bière et à la queue de bœuf.
Et il l'a testé.
Ah ouais, ouais. Et il était, il en parlait en termes élogieux, ça fait plaisir.
Donc allez voir la page Facebook de Marie-France. Donc on rappelle dans ce petit traité, on retrouve de tout, un bouillon, soupe potage, velouté aussi.
Oui.
Et on a des vraies curiosités. Alors par exemple, je pourrais ouvrir chaque page d'une curiosité. Hein. Page 49, velouté de maïs et foie gras au pop-corn.
Oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est effectivement parce que la soupe, bah justement, on parlait que maintenant c'était devenu à la mode. Et je trouve qu'on peut faire un repas festif justement pour les fêtes de Noël.
Oui.
C'est vraiment une soupe de Noël qu'on peut servir en petite verrine, la faire justement en petite quantité, la servir dans des petits contenants.
Très convivial.
Et voilà, au maïs, pour justement, ça fait partie de ces légumes qu'on ne pense pas à utiliser. Et puis le foie gras, là, ça va être aussi de saison. Donc maïs, pop-corn pour donner. En fait, c'est un jeu de texture, hein, c'est pour amener différentes textures et différentes saveurs à la soupe. Hein.
Et on retrouve effectivement des expressions aussi. J'ai découvert faire chabreau, je ne connaissais pas cette expression.
Oui, faire chabreau. Papa faisait ça autrefois. En fait, beaucoup, les anciens faisaient beaucoup ça. C'est-à-dire qu'ils rajoutaient du vin dans la soupe.
Tout simplement.
Parce que la soupe, c'était donc ce fameux bouillon et on y mettait un petit verre de vin et on faisait chabreau. Ça se faisait dans la plupart des régions.
Et vous avez quelques recettes.
Hein. Ouais.
Je l'ai dit, on voyage parce que vous l'écrivez aussi, la soupe, Marie-France, je vous cite, hein, peut se définir comme un marqueur identitaire de sa région, de son pays d'origine.
Oui, 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 c'est incroyable. Je pense notamment à la soupe libanaise dont l'écrivain que j'aime beaucoup, Amin Malouf, parle dans un roman comme d'une Madeleine de Proust. C'est une soupe au kishik et qui est une farine à base de blé concassé et de lavené. Et c'est typique donc de cette culture libanaise. Et
je l'avais signalé. Enfin,
oui,
je voulais en parler avec vous de cette soupe.
Il y a ça, il y a des soupes hongroises, il y a les soupes.
Le phobo du Vietnam. Ça,
oui,
c'est,
absolument.
Ça c'est éternel, ouais, un petit peu.
Ouais.
Donc on va retrouver tout ça dans
votre.
Donc
on retrouve tout ça. Oui, c'est vraiment un voyage culinaire et c'est un voyage où on va découvrir donc des produits, mais aussi des épices, des saveurs. Et je trouve qu'on amène en même temps. Je trouve qu'en ce moment tout est triste, hein, finalement, quand on écoute l'info.
Plein, oh oui.
Et de mettre un petit peu de couleur, ouais. De mettre un peu de piment dans une soupe, bah, tout de suite, ça apporte le sourire.
Et alors, vous avez plein de choix, hein, pour les petites cuisinières comme moi, et j'imagine des plus grandes cuisinières,
oui,
on va
absolument,
vraiment se retrouver.
Ouais.
Et voilà, on va au Laos, au Japon, en Chine, vous l'avez dit, dans plein de pays, en Bulgarie, et en avançant dans votre petit traité de la soupe, alors je me corrige, hein, j'ai dit au début de l'émission, et c'est vrai qu'il sera point nommé, ce livre, hein, le petit traité de la soupe, 14 ans, mais on a aussi des soupes d'été.
Oui, absolument, il y a les fameux gazpacho, le gazpacho espagnol. De toute façon, on pense, en soupe froide, on pense immédiatement au gazpacho, la soupe de tomate.
Oui.
Mais il existe des tas de variantes de soupe froide, qui peuvent être des soupes sucrées d'ailleurs aussi, hein, parce que je donne également des soupes sucrées, des soupes au vin, des soupes de fruits, qui peuvent être également des desserts d'été, des soupes glacées en fait.
Hein. Alors, il y a des coupes de potage morito.
Oui,
sympa ça.
Oui, là, c'était. Je me suis amusée là aussi. C'est des fois, mon imagination partait.
Oui, mais c'est sympa. Tarator bulgare, soupe glacée de concombre. Alors, ça,
oui,
c'est
voilà,
merveilleux.
Absolument.
Ouais. Donc, on a plein d'exemples, plein de recettes. Un chapitre a attiré aussi mon attention. Mange ta soupe et tais-toi. Ça, on l'a entendu,
oui,
ou presque.
Bah,
hein.
Oui, voilà, exactement. Donc, en fait, oui, je trouve que les enfants, enfin. Peut-être notre génération d'autant plus, puisqu'on n'avait pas toute cette variété de soupes, de légumes. Et c'était la soupe, alors on nous disait que ça faisait grandir, il fallait manger.
Ouais,
et puis parfois on se disait, c'est pas forcément savoureux. Quoi. Et donc je trouve qu'il y a des plats de... Maintenant, on retrouve le goût de la soupe, je trouve qu'on peut amener les enfants à manger des légumes et à manger des protéines aussi,
oui.
Par des moyens tourner en leur faisant découvrir des saveurs différentes pour leur faire aimer la soupe et leur faire aimer les légumes.
Alors moi je suis sûre que votre velouté popaille aux fraises et aux cailloux, oui, ça va être sympa ça.
La soupe, j'ai détourné le fameux conte de la soupe aux cailloux, mais c'est une soupe du terroir qui existait il y a très très longtemps, puisque on mettait dans un bouillon et avec des légumes un gros caillou, un gros galet qui permettait d'écraser les légumes, oui, en même temps que sa cuisine.
Donc ça partait quand même d'une réalité en fait.
Oui, absolument.
Et c'était pas que du conte. Voilà, on a plein de choses. Hein. On a des boulettes aussi dans le bouillon.
Oui.
Quelques exemples.
Parce que je trouve que la soupe, ça peut être aussi, surtout l'hiver, en ce moment, on a envie de plats consistants. Donc quand on a du monde à table, on peut faire une soupe repas. Bon, il y a le pot-au-feu qu'on connaît, mais ça peut être une soupe justement avec des boulettes, et on peut faire des boulettes avec, il y en a une où je fais des boulettes de sardines, des boulettes avec des restes de poulet, avec des restes de pot-au-feu, et ça, dans l'assiette, c'est, en même temps, c'est très joli, on a notre bouillon et puis les petites boulettes.
Et la fameuse aussi soupe fondue chinoise.
La fondue chinoise, oui.
Il y a plein de choses dedans.
Oui.
Et ben, je vais tester votre fondue chinoise ce week-end, je vous dirai.
J'attends.
Ah oui, je promets, je vais le faire. On vous retrouve, on l'a dit, le 21 novembre à 20 degrés nord, 20 degrés sud pour une soirée soupe avec Mélanie Polo, avec vous évidemment, avec la librairie, oui, au Chaland. D'autres peut-être séances de dédicaces, parce que le livre il arrive là le 14 novembre. Est-ce,
oui,
que vous avez ça en tête?
Alors j'ai une rencontre à la librairie. À la librairie au Poiré-sur-Vie, la librairie Les Instants Libres, le 16 novembre.
D'accord, donc 2 jours après la sortie du livre.
Voilà, exactement. Donc le 16 novembre, je serai le matin, on fera aussi une dégustation soupe à la librairie, donc Les Instants Libres au Poiré. Et puis le 21 novembre, là, c'est vraiment la sortie, la soirée sortie, la sortie du livre, avec où là, vous, ça va être un vrai événement, en fait.
Voilà, on va manger, ouais,
cette. Et Mélanie a prévu, on en a déjà discuté, mais il va y avoir des soupes avec du chocolat, bien
évidemment,
sûr.
Qui peuvent aussi agrémenter des soupes salées, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Ça va être formidable. Merci beaucoup, Marie-France Berthaud. Le petit traité de la soupe, donc c'est aux éditions Le Sureau. La collection, elle est merveilleuse. Avec ce joli papier, cette jolie couverture, c'est un très beau cadeau aussi, hein, de fin d'année.
Ah
moi,
oui,
pense,
absolument. Hein, puis, vraiment, la soupe, c'est vrai que quand j'en avais eu l'idée, j'en avais parlé à ma petite nièce qui m'avait dit, mais tata, c'est intergénérationnel, mais la, oui, soupe. Et c'est vrai.
Et on a vraiment des merveilleuses recettes à, oui, à faire. Merci beaucoup Marie-France. Ben, je vous souhaite une longue vie à ce petit traité.
Merci.
Merci, à très bientôt, j'imagine.
Ah oui, j'espère.
Bah oui, très bien. À demain Emma pour les rendez-vous de midi. Demain, les jeudis de l'économie, votre invité Betty Séjourné.
Voilà, de l'entreprise Séjourné, on va parler d'énergie positive, notamment de photovoltaïque et de recrutement.
Demain, prévu donc à 12h35, évidemment, sur Neuve. Il est 13h, les infos avant d'écouter Jérémy Frérot et Texas, et à tout à l'heure dès 16h sur Neuve pour le Club Neuve.
Neuve.
Bonjour à tous, le bilan